Ah bah à mon avis, en 2050, tu te nourris majoritairement localement, vu comment c'est parti, majoritairement des légumes, des fruits, et après, t'agrémentes ça de quelques insectes grillés, et puis voilà, et puis t'es content.
Bonjour à toutes et à tous, c'est plus qu'un plaisir de vous retrouver chaque après-midi, un régal, surtout aujourd'hui. Chaque jour, vous le savez, on se saisit d'un mot qui flotte dans l'air du temps, qu'on entend souvent mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Et cet après-midi, on va pas se contenter de zoom zoom zen, on va carrément passer à la casserole. Autour d'un mot qui, vous allez voir, fait référence à bien des choses très différentes, la food tech. Depuis 5 ans, elle est partout, des champs de nos agriculteurs aux rayons de nos supermarchés, des protéines de lin bio pour gonfler ses biceps de manière éco-responsable après une séance de muscu. Food tech, un drone pour améliorer la productivité d'un champ de céréales, food tech, une entrecôte cellulaire au bilan carbone neutre, food tech, une plateforme qui permet d'optimiser la vente de rutabaga en circuit court, food tech. Le secteur est vaste, hyper créatif. Cette émission a donc deux objectifs, vous permettre de savoir de quoi on parle quand on parle de food tech, de comprendre en quoi ça va changer notre assiette et de permettre à Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef dit père dodu, de poser la question qui le hante depuis des années. Est-ce qu'un jour on pourra utiliser une imprimante 3D pour créer des steaks hachés? Patience Cyril, Zoom Zoom Zen spécial food tech ne fait que commencer.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À mes côtés, ils sont jeunes, ils sont beaux, et tel Monsieur Jourdain avec la prose. Ils ont recours à la food tech tous les jours sans même le savoir, quand par exemple, pour se remettre d'une gueule de bois à l'issue d'une soirée d'anniversaire où je n'étais pas invité, ils commandent des knacky balls sur Frichti à 6h du mat. Bonjour Manon Mariani et Quentin Lui.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Manon, vous êtes ce genre de personne qui achète des cordons bleus de soja au Biocop, prenant ainsi le risque d'être licencié sur le champ si jamais Cyril Lacarrière vous prenait en flagrant délit, ce qui a peu de chances d'arriver vu que Cyril n'entre jamais dans les Biocop. Surtout, vous êtes notre référente réseaux sociaux. Chaque après-midi, les scrutés vous permettent de sentir ce qui va faire parler demain.
Et demain, on sera peut-être tous sur Hive, la nouvelle application qui pourrait remplacer Twitter. En tout cas, l'ère post-Elon Musk est en marche. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Manon, lui, il a carrément travaillé dans la food tech, et plus précisément la coffee tech. Puisque je vous rappelle qu'avant d'exceller dans les micro-trottoirs, il excellait dans la vente de café Richard sur les routes de l'Orne. Qu'il sillonnait au volant de son estafette Iveco avec le sourire carnassier des winners, se répétant en boucle les conseils humanistes de son responsable des ventes.
Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence.
Il a l'air sympa, votre responsable des ventes, Quentin.
Marielle,
c'était
formidable.
Lui. Quentin, aujourd'hui, ce sont vos retrouvailles avec la food tech. Alors justement, dans la rue, comment les passants réagissent-ils au terme food tech?
On va pas se mentir, ça suscite la curiosité du badaud. Hein, les steaks aux champis, les machines qui font des pizzas, tout ça dans un micro-trottoir complètement à la rue.
Aux alentours de 16h30, pour faire honneur à notre thème du jour, la food tech, et si au lieu de vous poser des questions, nous transformions exceptionnellement le quiz en épreuve de Koh-Lanta?
Ouais.
Qui de Manon ou Quentin mangera le plus de saucissons de café? La réponse dans un zoom zoom test qui s'annonce savoureux. Vous voyez, c'est prêt ici pour tout à l'heure.
Oh mon dieu, il y a vraiment quelque chose.
En fin d'émission, Marine Baousson viendra nous livrer sa vision de la food tech avec peut-être un kouign-amann moléculaire, qui sait. Mais d'abord, en parlant de molécules, accueillons notre invité du jour, un pionnier de la food tech. Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour.
Vous êtes biophysicien, professeur et chercheur au CNRS. Vous êtes également cofondateur du Food 2.0 Lab. Alors, à en croire ma fiche, vous aviez publié il y a de longues années de ça, bien avant que ça devienne un sujet d'actualité, toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir chef en 1987. Deux possibilités, donc soit vous aviez 12 ans et vous étiez précoce, soit notre rédacteur en chef qui prépare la petite bio des invités avait encore trop picolé chez Blériot, sa brasserie fétiche, au moment de préparer cette émission. L'an dernier, là on est plus sûr, hein, vous avez publié Molécules, la science dans l'assiette chez Argol. Alors Christophe, on va le voir cet après-midi, la food tech englobe beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce qu'on appelle la cuisine moléculaire, mais pour commencer, la cuisine moléculaire, c'est quand même de la food tech par excellence ?
Alors oui, dans le sens que c'est l'association de l'alimentation et d'une approche hyper technologique ou technique. Mais la cuisine moléculaire ne concerne qu'une infime partie, si ce n'est pas dire négligeable, de la population, puisque en général, c'est ce qui va se passer dans les restaurants. Et en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, avec une cuisine un peu expérimentale, qui a d'ailleurs souvent été qualifiée de cuisine moderniste ou cuisine techno-émotionnelle, mais qui se mange dans quelques établissements dans le monde qui vont chercher justement l'expérience, enfin à proposer des expériences hors du commun à leurs clients. Donc, ce n'est pas de l'alimentation, c'est plus de l'expérientiel.
C'est vraiment le sommet de l'iceberg, la partie émergée, mais ce n'est pas du tout l'ensemble de la food tech. La food tech est bien...
La food tech, le but, c'est quand même de nourrir le monde.
Le monde entier, voilà. On va en parler. On sera bientôt 11 milliards. Face à vous, Christophe, on a beau dire, il reste persuadé que c'est bien à 12 ans que vous avez écrit toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir chef. Et il ne faut surtout pas le contredire. Hein. Il est un caractère ombrageux, voire bougon. Bonjour, Cyril Lacarrière.
Bonjour, Mathieu Noël. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Vous avez honte. Hein. Alors, Cyril, on sait combien la technologie vous inquiète en général et surtout dans un secteur qui vous tient autant à cœur que la bouffe. Mais vous allez prendre sur vous et nous raconter l'origine de notre mot du jour, la food tech, d'où ça sort.
Il aura donc fallu attendre 61 émissions pour qu'on parle enfin de bouffe. Comme quoi, être rédacteur en chef dans cette boîte, c'est plus un titre que du pouvoir. À ça, pour sauver la planète et se préoccuper des minorités, il y a du monde. Mais quand il s'agit de savoir comment réussir la cuisson d'un casier de veau ou quel vin choisir avec un osso buco, là, il n'y a plus personne. Mais on y est.
Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive.
Ah. Savez-vous que Depardieu a un lien avec la food tech? Il est très food tech, Depardieu.
Mais justement, c'est là où ça dérape. De la food, ok, je vois. De la tech, bon, c'est pas ça qui va faire cuire le rôti. Mais je poursuis. Quand on associe les deux, ça donne donc food tech, un terme pour désigner l'ensemble des innovations technologiques du secteur alimentaire, des innovations qu'on trouve sur l'ensemble de la filière. On a commencé à l'évoquer, de la production à la distribution, en passant par la restauration, le gaspillage alimentaire même, et l'agriculture. Avec un nom pareil, vous vous en doutez, ça ne vient pas du Danemark. C'est aux États-Unis qu'est apparu ce concept avant de se diffuser partout dans le monde, en Europe. La France fait partie des pays les plus en pointe sur le sujet. Et oui, près de 500 startups de foodtech ont été créées entre 2012 et 2019. Dans le monde, elles sont plus de 4000 et on estime que cette année, le chiffre d'affaires du marché de la foodtech devrait atteindre les 250 milliards d'euros. Un marché en pleine expansion qui attise les appétits. À propos d'appétit, je réalise qu'en fait, on ne va pas parler de bouffe cet après-midi. Une belle arnaque, encore une fois. La saison prochaine, j'irai bosser avec le père Gaudry.
L'histoire, ça aussi.
Merci Cyril Lacarrière. 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévu cette année pour la food tech. 9,5 milliards d'euros investis dans la food tech et l'agritech en Europe l'an dernier. Christophe Lavelle, pourquoi ce secteur est-il en pleine effervescence? Et aussi, deuxième question, la France est-elle si en pointe que ça?
Alors, il est en pleine effervescence parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut manger. Et donc, avec cette contrainte-là qui est fondamentale, qui est physiologique, on a une superposition d'autres contraintes qui sont de nature hédonique, mais on a envie d'avoir plaisir quand on mange, qui sont de nature sanitaire, on a envie d'être en bonne santé, alors déjà de ne pas s'intoxiquer, mais aussi sur le long terme, de ne pas déclencher un cancer 20 ans plus tard, parce qu'en fait on n'avait pas compris quelque chose. On a des contraintes qui sont bien sûr économiques, on a des contraintes qui sont sociologiques, on mange ensemble, on mange dans une société, on a des contraintes qui sont environnementales, et donc ça fait qu'on a énormément de données et de paramètres à injecter dans l'équation qui est censée nous indiquer la bonne manière de manger. Et évidemment, la bonne manière de manger n'existe pas, il y en a sûrement des bonnes manières. Et pour intégrer tous ces paramètres et pour après trouver les solutions qui pour chaque cas vont fonctionner, on se rend compte qu'il y a besoin de faire appel à beaucoup de connaissances qui tiennent du domaine de la physique, de l'agronomie, de l'écologie, de la sociologie, de tout ça. Et donc c'est un peu de là que naît la food tech en disant il nous faut des solutions et la technologie doit nous aider à trouver ces solutions, éventuellement.
Ce qui est intéressant de dire peut-être dès le début de cette émission, c'est que la food tech n'est pas incompatible avec le plaisir. C'est-à-dire quand on appréhende ce mot food tech, on se dit que c'est la technologie qui va décider de ce qu'on mange, qui va transformer les produits, mais il y a... Il y a
ça.
Autre chose.
C'est pire que ça, je dirais. C'est pas qu'elle est pas incompatible. Enfin, c'est que la food tech ne peut se faire sans le plaisir. C'est-à-dire que une solution technologique, aussi belle soit-elle, ira immédiatement à l'échec si elle ne coche pas la case plaisir. Si elle ne coche pas la case santé, on arrive à s'en sortir parce qu'on s'en rend pas forcément compte tout de suite.
Mais le plaisir.
La case environnementale, elle est altruiste et à la limite, on peut être égoïste et s'en foutre complètement et prendre cette solution quand même. Mais le plaisir, ça, si je veux nourrir les personnes âgées et que j'ai trouvé la bonne solution pour qu'elles aient la bonne quantité de protéines, tout dans leur assiette et que je formule mon plateau magnifiquement, mais si c'est pas bon, mon plateau me revient et donc j'ai travaillé pour rien. Donc si j'oublie la case plaisir, ça sert à rien de travailler.
C'est quoi la pépite la plus prometteuse de la food tech française en ce moment? Est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel on est bon, on innove?
Oui, il y a plusieurs. Alors, je ne sais pas à quel point on a le droit de citer des marques.
Ce qu'ils font, leur domaine d'activité.
Notamment, on commence à quand même bien se faire connaître sur ce qui est l'élevage d'insectes.
Ah, ça prend, ça.
Ah, ça prend sacrément.
Ah, oui. C'est
même des très, très gros, les plus gros investissements de la food tech, avec des boîtes, enfin, en l'occurrence, une, surtout deux, on va dire, boîtes françaises, qui ont vraiment pionné en Europe. Et pour l'instant, de manière assez discrète, parce que c'est pas du tout voué à une alimentation humaine. C'est dans un modèle agricole qui voit une alimentation animale. C'est pour faire de l'élevage, notamment de la pisciculture.
Ah, d'accord.
Et donc,
c'est pas nous qui mangeons les insectes.
C'est pas nous qui mangeons, parce que ça, on n'en veut pas, de toute façon. Et sans y mettre ma main au feu, je pense qu'on n'en voudra jamais.
Ah, ça, c'est hyper intéressant, parce que ce que j'ai lu pour préparer l'émission, c'est les spécialistes, certains spécialistes du domaine, ou qui ont peut-être des billes dans le business des insectes, disent dans 10 ans, on mangera tous des insectes comme dans d'autres parties du monde.
Non, certainement pas.
Non,
pas dans 10 ans. Dans 100 ans, je ne sais pas.
Soupir de soulagement chez Cyril Lacarrière en régie.
Non,
en tout
mais
cas.
Non, mais on ne change pas une alimentation en une demi-génération.
Ouais.
Ce n'est pas possible.
C'est vrai,
culturellement,
logique.
Ça ne passe pas. Donc, dans 100 ans, je ne sais pas. Dans 10 ans, c'est sûr que non. Et en tout cas, les insectes, on va les manger, mais à travers le poisson, à travers un bar élevé aux insectes, à travers une poule élevée aux insectes, ça oui. Mais c'est caché dans cette manière-là.
Lui, il incarnait à sa manière une forme de French touch musicale, celle-là, il nous manque. Heureusement, à Radio France, on a conservé les bandes. Et c'est ainsi que nous sommes en mesure de vous faire écouter Alain Bashung, oui, Osé Joséphine sur Inter.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Ils vont des petits, ils vont des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages. Jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez. Usez, l'usurier, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Zoom, zoom, zen. Sur France Inter.
Il chantait par-dessus Bashung et je me demande qui chantait mieux finalement, Alain Bashung ou Quentin Luy. Ça se
spoiler,
discute, je vous
alors.
Fais. Spoiler,
spoiler,
c'est Alain.
Désolé.
L'équipe de Zoom Zoom Zen est très excitée, surtout les enfants cet après-midi. Manon, Quentin, je vous expliquais, nous mangerons des frites après l'émission. D'abord, on doit comprendre ce que recouvre l'expression un peu fourre-tout de food tech. On en parle avec vous, Christophe Lavelle, vous êtes biophysicien. Et on le disait tout à l'heure, la food tech se retrouve dans toute la filière alimentaire. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon ensemble pour que vous nous expliquiez comment la technologie se retrouve à la fois dans la production, la restauration, la distribution? On aurait besoin de quelques exemples. Elle est partout, la food tech, en fait.
Elle est surtout toute la chaîne, ou tout le long de la chaîne, on va commencer, on utilise souvent l'expression de la fourche à la fourchette, ou du champ à l'assiette, ce qui revient même, c'est-à-dire qu'il y a un moment, de toute façon, quoi qu'on invente comme solution, il faut une matière première. Donc il faut de la production végétale ou animale, donc il faut des paysans, ça on n'y échappera pas. contrairement à ce que peuvent laisser entendre certains délires de science-fiction.
Ils ne seront pas remplacés par des machines, des drones ou des trucs comme ça. Ils seront aidés.
Ils peuvent être aidés par des machines. En tout cas, on a besoin de la terre, ça, par contre, ça, c'est sûr. Et là-dessus, on peut bien sûr mettre en œuvre ce qu'on appelle notamment l'agriculture de précision, qui, justement, comme vous le mentionnez, l'utilisation d'une technologie, enfin, de diverses technologies qui vont permettre d'optimiser les rendements et, à l'inverse, de minimiser ce qu'on appelle les intrants. C'est-à-dire qu'on va faire de l'irrigation goutte à goutte, on va éventuellement faire du hors-sol complet, c'est-à-dire qu'on va faire de l'irrigation dans des grandes enceintes stériles et on va faire pousser à peu près ce qu'on veut là-dedans avec des solutions nutritives qui vont circuler.
On va pas perdre le goût. Les grands chefs vous diront on va perdre le goût. Il faut que ça soit enraciné dans une terre pour que ça ait du goût, la tomate.
Non, on va pas perdre le goût pour une bonne raison, c'est qu'en fait, dans ces solutions nutritives, on met ce qu'on veut. Et donc, si on fait ça bien, qu'on a des bons ingénieurs, on a des tomates qui ont le goût qu'on veut. Je peux vous faire une tomate qui a le goût de la banane si on en
veut. Vous pouvez faire une tomate qui a le goût de la banane.
Oui, ça sert à rien, mais on peut le faire.
Ça va être sympa.
Mais oui. Voilà. Donc, technologiquement, on peut tout faire.
On peut le faire.
Après, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on peut poser plein d'autres questions? Mais technologiquement, en général, on trouve les solutions.
Il y a un point qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'essor des protéines alternatives. Ça, c'est un des domaines les plus innovants de la food tech, parce que ça va être hyper utile d'avoir d'autres protéines que les protéines animales. On en est où de ce côté-là? On avance à pas de géant?
On avance à pas de géant, parce que finalement, la protéine, c'est la question. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'en termes de macronutriments, on pense aux glucides, on pense aux lipides, on pense aux protéines. Les glucides et les lipides, c'est le sucre et le gras, on en a assez. Ça va, on n'a pas de mal à en trouver. Les protéines, dans les pays développés, on en a largement assez. Dans les pays en voie de développement, c'est une vraie question.
C'est là qu'est le problème,
ouais. On a des écarts qui sont monumentaux. On a besoin physiologiquement d'à peu près 20 grammes de protéines. On est plutôt à 10 grammes dans les pays pauvres et plus de 50 grammes dans les pays riches, ce qui est une aberration dans les deux sens. Et donc à partir de là, si on veut vraiment que tout le monde ait la bonne quantité de protéines, il va falloir être capable de produire cette quantité optimale. Et là, on voit bien, et on l'entend régulièrement, et ça c'est vrai, que le modèle qui consiste à ne reposer quasiment que sur la protéine animale n'est pas viable, pour des raisons à la fois éthiques et environnementales. Donc il faut inverser un peu la balance. Et quand on dit inverser, c'est vraiment renverser l'équilibre. On est à l'heure actuelle, dans les pays développés, à 2/3 de protéines animales pour 1/3 de végétales. L'inverse serait quand même pas mal. Et pour ça, il faut inventer des nouvelles manières de produire et de valoriser. Et c'est là que la food tech rentre dans l'industrie de transformation. C'est-à-dire comment, avec de la protéine de poids, j'en fais un aliment qui donne envie,
voilà, qui soit bon.
Au-delà du poids, que je peux manger tel quel.
Il faut le dire, la food tech, c'est aussi un outil pour mieux manger. Je sais pas, je pense il y a des applications comme Yuka. Par exemple, moi, je suis dans mon supermarché, je yukise les choses.
Je vous imagine tellement faire ça.
Je perds un temps fou.
Avec les codes-barres.
Mais ça fait partie de la food tech aussi.
Il y a énormément, une des plus grosses composantes de la food tech, c'est le numérique, évidemment. Même parfois, il y en a qui identifient la food tech au numérique, ce qui est un peu réducteur. Mais dans toute la food tech, il y a ces notions de big data, comme on dit, donc de traitement de grosses bases de données, d'interaction avec le consommateur, et donc typiquement les applications qui vont nous aider, à condition de savoir les utiliser quand même, mais les applications qui vont nous aider à bien manger font partie, bien sûr, de ce grand domaine de la food tech.
Manon Mariani.
Je pense aussi aux applications, par exemple, comme Frishti, HelloFresh, qui nous font des paniers un peu garnis. C'est de la food tech, ça aussi?
Tout ce qui passe par une appli, tout ce qui passe par un smartphone, c'est de la food tech, par définition. Après, ça peut être un peu, c'est le paradoxe, c'est qu'on peut avoir, par exemple, quand on prend un exemple célèbre, la ruche qui dit oui, qu'on cite tout le temps, qui en fait, c'est justement des petits producteurs locaux qui mettent en contact avec des consommateurs, donc ça fait pas du tout tech.
Je veux dire, on a un lien. Mais c'est pourtant food tech.
Oui, c'est food tech parce que derrière, il y a une base de données. Il y a un site, il y a une interface web, il y a un traitement, enfin il y a une mise en place qui est quand même complexe à faire en termes informatiques. En fait. Donc c'est de la tech, c'est pas juste du bouche à oreille et tiens moi je connais un bon producteur, je te file son contact sur un bout de papier.
En préparant cette émission, j'ai lu qu'en 2020, année du Covid, la vision des investisseurs a changé, que la food et la food tech en particulier sont devenues glamour. Bien manger a jamais été aussi important. La crise sanitaire a changé quelque chose pour la food tech?
Changer, je sais pas, accélérer. Oui. Voilà, on dit souvent que ça accélérer la transition, qu'il y a cette volonté qui a toujours existé de changer les choses, comme on dit un peu de manière bateau. Ce qui est intéressant et à la fois qui peut être perturbant de la food tech, c'est qu'on voit beaucoup d'acteurs qui rentrent dans ce domaine et qui ne sont pas du tout du domaine de l'alimentaire. Jusqu'à présent, on dirait dans le monde d'avant, les gens qui produisaient les aliments étaient des gens qui sortaient d'école d'agronomie ou qui avaient des parents fermiers, etc., qui reprenaient les domaines. C'est plus le cas aujourd'hui. On voit des investisseurs qui n'ont rien à voir avec le domaine, qui étaient dans le marketing, dans l'économie, dans la finance, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis du jour au lendemain, ils disent tiens, finalement, peut-être monter une boîte de protéines de sexe cellulaire. Et puis voilà. Alors évidemment, ils s'associent les services éventuellement de quelques compétences, mais c'est intéressant de voir comment ce monde est totalement bouleversé.
Et que c'est un secteur qui attire tout le monde.
Et c'est un secteur qui attire tout le monde.
C'est l'un des aspects les moins reluisants, peut-être, de la food tech, la partie vente. Vendre à tout prix, quitte à gonfler artificiellement le caractère innovant du produit, comme le responsable de Quentin chez Café Richard.
N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des lumières.
Oh. À noter que lui-même n'était pas une lumière, puisqu'il n'avait pas réalisé que vous aviez volé votre percolateur de démonstration pour l'utiliser en douce chez vous. Il y a prescription, on peut le dire, Quentin. Je me suis laissé dire que vous étiez complètement à la rue sur le sujet du jour, Quentin.
Oui, parce que pour moi, la food tech, c'est un œuf mimosa imprimé par un iPad, quoi. C'est la rencontre ennuyeuse entre Paul Bocuse et Elon Musk, où personne ne se comprend. Mais c'est bien plus que ça, comme on peut le découvrir avec notre invité depuis le début de l'émission. Qu'en pensent les gens dans la rue ? Nous sommes allés à leur rencontre. On commence avec Robinson, la trentaine, architecte en région parisienne. Allons-y pour la...
La food tech. Ça m'inspire un mot qui est un peu anglicisé pour vouloir dire un truc compliqué alors que c'est super, super simple à mon avis.
Pas tant que ça.
Ouais,
pas tant, mais non. J'adore. Je lui parle de la surpopulation, de l'eau, de la technologie et l'avenir de nos assiettes alors. Comment allons-nous manger en 2050 selon Robinson ?
Ah bah à mon avis en 2050 tu te nourris majoritairement de choses qui ont poussé localement vu comment c'est parti, majoritairement des légumes, des fruits. Et après, t'agrémentes ça de quelques insectes grillés. Et puis voilà, et puis t'es content.
Dans un éclat de rire, est-ce qu'il est prêt à ça ? Après tout, il s'appelle Robinson.
En vrai, ouais, je pense. Je commence à petit à petit m'y habituer, tu vois. Je mange du muesli le matin. J'essaye des fois pas manger de viande. Et je goûte aussi, dès qu'il y a un truc au soja ou un steak de champignons, bah, je le teste et je me dis oui, est-ce que ça vaut le coup ? Non, ça vaut pas le coup.
Et alors ?
Et alors, franchement, pour l'instant, ça marche plutôt bien sur moi. Hein. Après, rien ne vaut une bonne bouffe avec les copains où il y a un bon bout de viande.
Ah, on était bien parti.
Il a dérapé.
Robinson, tu lui mets 4 potes, un gigonda, c'est un rôti de bœuf. Il oublie le steak au champi. On appelle ça aussi faire une la carrière. J'arrête cette dame maintenant. Elle s'appelle Paulette, le foulard autour de la tête. Elle me confie qu'elle va fêter ses 90 ans dans 4 mois.
La food tech. Alors, c'est pas moi qu'il faut parler de bouffe, parce que je me fais ma bouffe moi-même. Donc je ne suis pas du tout dans votre food tech.
Bah peut-être que si, on discute et pour elle, le futur se joue aussi dans les cultures.
Déjà, il faudrait qu'ils arrêtent de faire pousser du blé sur des terres qui n'y étaient pas prédestinées. Encore moins le maïs, par exemple. Hein. Des plantes qui étaient d'origine tropicale, qui ont été introduites en France déjà chez les Basques parce qu'ils étaient allés en Amérique du Sud. Un terroir donne une certaine qualité de culture et qu'on ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où.
On laisse partir Paulette et on saute 4 générations. Je vous présente Anthony, 21 ans, et son amie Élise, 23 ans, étudiant en droit. Ils sortent de l'amphi.
Pour moi, la food tech, c'est la technologie dans la nourriture. J'ai un exemple, je crois que c'est dans le Val-de-Marne, un centre commercial qui avait utilisé un robot pour faire des pizzas. Je trouve que c'est pas mal, c'est une avancée technologique. Mais je préfère quand même avoir mon pizzaïolo à côté, qui me fasse des bonnes pizzas, tout ça. Parce qu'on sait jamais avec les robots, des fois, c'est pas fiable.
Ouais, on n'est pas sûr. Le pizza robot, pour Anthony, c'est non. Et alors pour Élise, elle semble un peu plus réservée.
Ça fait peur parce qu'il y a déjà eu des dérives éthiques sur la nourriture et sanitaire.
Par exemple ?
La vache folle, les scandales Buitoni récemment. Les OGM, mais c'est vrai que les chercheurs, mais peut-être pas que les chercheurs, c'est peut-être la bonne nouvelle, peut-être les agriculteurs qui sont plus sur le terrain vont avoir des méthodes un peu plus responsables pour l'alimentation du futur.
On change de trottoir et à la sortie d'un taxi, je tombe sur Maxime, la voix fatiguée, la chemise un peu débraillée. Il est ingénieur d'affaires, la food tech, ça le questionne.
C'est forcément un défi. Je sais qu'il y en a qui essayent de faire la cuisine moléculaire ou... T'as même des grands chefs qui l'essayent et qui finalement disent ouais, c'est peut-être pas si mal. J'imagine le truc bien fait où on a les textures, les goûts, les nutriments qui sont plus ou moins copiés. Après, c'est ça la chose aussi, c'est est-ce que si on veut créer quelque chose de nouveau, est-ce qu'on doit essayer de reproduire ce qu'on connaît déjà, là, par exemple une saucisse, un truc comme ça, est-ce qu'on doit essayer de refaire des choses de viande ou peut-être même inventer des nouveaux produits ou...
Et c'est toute la question. La food tech va-t-elle totalement réinventer notre façon de nous nourrir ou alors tout simplement imprimer des fausses saucisses végétales en 3D ? Attention, chaud devant, chaud !
C'est un biophysicien qui nous accompagne cet après-midi sur Inter pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce terme food tech. On vient d'entendre, Christophe Lavelle, beaucoup de réactions, beaucoup de fantasmes, des inquiétudes aussi. Est-ce que la food tech, ça va permettre une meilleure transparence? Est-ce qu'avec la food tech, on n'aura plus de scandale de la vache folle? C'est un broglie autour de la viande de cheval en 2013, on s'en souvient. Est-ce que maintenant la traçabilité va être parfaite?
Alors la food tech, d'un côté, peut effectivement aider à la traçabilité. D'un autre côté, il faut quand même, d'un point de vue culturel, se rendre compte que dès qu'on est dans des filières où on va faire appel à ce qu'on qualifie parfois de transformation, voire d'ultra-transformation, on s'éloigne forcément d'une, non pas une traçabilité au sens légal du terme, mais de ce que le cerveau peut intégrer en termes de traçabilité. C'est-à-dire qu'un aliment extrêmement processé, moi je suis pas capable de le faire dans ma cuisine, donc j'ai du mal à comprendre vraiment ce que c'est. Et donc ça c'est encore un autre sujet.
Pardon, vous m'inspirez la prochaine question sur, sur ce problème des produits ultra transformés, ça c'est clairement food tech malheureusement, parce que là pour l'instant on est assez positif sur la food tech dans cette émission. Est-ce que c'est pas une dérive?
Alors,
parce que c'est mauvais pour la santé les
oui, alors enfin, ça reste un débat.
Ça reste un débat, c'est pas prouvé?
Ça reste un débat, et quand on dit ultra transformation, c'est un très vaste domaine, et c'est pas forcément si nouveau que ça, on en parle de manière récente parce qu'on commence à comprendre. Mais l'ultra-transformation, si on veut s'en donner une idée, ça consiste à extraire des aliments certains composés pour les réassembler dans une agrégation qui n'existe pas dans la nature.
Oui, mais pourquoi faire ?
De cette manière-là, le chocolat est un aliment ultra-transformé.
Ah d'accord, ok.
Parce que vais extraire d'un côté le beurre de cacao, que je craque, je fais du cracking, et je sépare de la poudre de cacao, et je rajoute de la lécithine de soja pour émulsionner, et du sucre que j'ai extrait d'une betterave, et tout ça, j'en fais du chocolat. C'est un aliment ultra-transformé.
Alors, je retire immédiatement ce que j'ai dit. Surtout, ne nous privons pas du chocolat.
C'est pour ça.
Évidemment.
Quentin, lui.
Christophe Lavelle, je vous ai vu hocher la tête au propos de Paulette, notre retraitée du micro-trottoir. Elle nous parle des cultures, notamment du maïs. Chaque terroir donne une certaine qualité de culture. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Vous êtes d'accord avec elle ?
Oui, ça c'est vrai, mais ça les agronomes le voient bien. Et de toute façon, si on essaye, ça échoue. C'est-à-dire, si on essaye de planter des oliviers sur une terre de maïs, on va sans doute avoir des soucis. Et les gens, enfin certains en tout cas, pour s'affranchir de ça, justement, partent sur des idées de hors-sol en disant « je ne me pose plus la question, mais je fais de l'irrigation dans des tubes en plastique et j'ai plus la question du sol ».
Aujourd'hui, on est déjà très nombreux sur Terre, on sera 10 milliards normalement en 2050. La food tech, si on devait résumer l'intérêt principal de la food tech, c'est que c'est en réfléchissant comme ça à des outils technologiques qu'on va réussir à nourrir tout le monde. On en est sûr de ça ?
Non, c'est un peu... c'est, enfin, comment dire ? On cherche des solutions, et donc on se dit il faut pas qu'on passe à côté d'une de ces solutions.
D'accord.
C'est-à-dire que la technologie doit nous proposer tout un tas de solutions que l'on va après choisir selon aussi tout un tas de critères. Mais il y a un peu les deux visions. C'est-à-dire qu'il y a la vision qui relève vraiment de la projection type limite science-fiction, on va dire, une vision hyper technologique, qui est un peu le domaine du « on va manger des pilules », effectivement. Et l'autre, au contraire, qui est le côté plus retour en arrière en disant mais en fait il faudrait plutôt revenir à la terre, revenir aux traditions parce qu'on a un peu perdu tout ça, et que si finalement tout le monde se met
à
faire ça et à cultiver, on a assez de surface, ça c'est vrai, on le sait, et si il suffit juste par exemple pour la France de recruter 500 000 paysans supplémentaires, et en fait on n'a plus besoin de l'agriculture intensive.
Donc c'est pas forcément la technologie qui va nous sauver.
Oui, sauf que dans ce que je viens de dire, on se rend bien compte que recruter 500 000 paysans supplémentaires, ça va être compliqué.
On continue à parler food tech dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Christophe Lavelle. Dans un instant, on va tester nos connaissances sur la food tech. Il y aura peut-être une dégustation, mais d'abord, elle aussi, elle se déguste, on l'adore, c'est Emma Peters, Terrien sur Inter.
Souvent je me demande comment tourne la terre, j'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire, il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air, j'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre, j'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire, il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air, j'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. J'ai pas d'attache, pas de rêve, je fais tout à l'enfer, chez moi c'est marche ou crève, et je regarde jamais terre. J'ai pas demandé à venir au monde, et toutes mes émotions se confondent. J'écris des textes un peu bidons, calés sur le bip du micro-ondes. Et j'ai la dalle, ouais. Je prends tout ce qu'on me donne, un peu bestial, ouais. Je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis. Pas là pour faire ami-ami, moi je veux mon carré VIP. Et la villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous, mais de moi surtout. Et dans mon corps, y'a tout qui brûle, du mal à sortir de ma bulle. Et même ça m'emboucle dans ma tête, pour ça qu'on sort, qu'on fait la fête. Je suis dans un putain de servicieux, je suis comme s'il y avait pas d'enjeu. Mais je suis fatiguée, je me couche tard, je me lève tard. Ouais, je vis en décalé, et je me sens bien nulle part. Souvent je me demande comment tourne la terre, j'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire, il faut faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence? Est-ce que tu sais pourquoi je suis née? Je me fais pas confiance. Pourquoi à chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter?
C'est nerveux, je te jure.
J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es pas bien dans ta peau, c'est pas mon problème. J'ai assez de galères à gérer tous les jours, fight avec moi-même. Avoir du succès ou t'aimer, toujours le même dilemme. Dans ma famille, ils sont tous devenus fous à force de surlitude. Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire comme un opus. J'espère que c'est pas héréditaire, malédiction et nique ta mère. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je me lève, je sais plus jouer de la guitare. Non, faut pas me laisser. Faut pas me laisser seule. Non. Je pourrais m'abîmer. Et j'ai encore des tas de choses à vivre avant l'un seul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Le goût de la défaite est souvent amer dans le Zoom Zoom Test, mais aujourd'hui, alors que nous allons évoquer les idées les plus saugrenues de la food tech, je préfère mettre en garde Manon et Quentin, malheur aux perdants. Quentin, vous ne connaissez que trop bien Willy Rovelli. Vous connaissez aussi l'épreuve qu'il anime dans Fort Boyard où les candidats doivent manger des choses bizarres. Eh bien, à l'issue de ce quiz, le perdant devra goûter ce qu'on appelle dans l'open space les noix de cajou de la mort.
Oh,
des noix de cajou oubliées dans un tiroir depuis des temps immémoriaux. Elles ont connu Antoine de Caunes, la souris ratatouille, les ancêtres de la souris ratatouille. Peut-être sont-elles là depuis, qui sait, l'époque d'Yvan Levaille. Alors réfléchissez bien à ce que vous allez répondre. Attention, top. En 2100, nous serons probablement plus de 11 milliards sur Terre. Alors ce jour-là, qui aura un avantage décisif? Les entomophages, les trichophages ou les anthropophages?
La A.
La A, vous avez regardé notre invité.
Mais il a rien fait.
Oui, mais à mon avis, vous avez fait un clin d'œil.
Non, non.
Qu'est-ce que vous dites, Quentin?
La A aussi.
Oui, mais c'est trop tard. Oui, bonne réponse de Manon Mariani. En 2100, si vous voulez manger à votre faim, il faudra mieux être entomophage, c'est-à-dire amateur d'insectes. On en parlait tout à l'heure. Les trichophages n'auront pas d'avantage particulier vu qu'ils continueront simplement à bouffer leurs cheveux.
Oh,
donc,
non.
Entomophage.
Je suis mal barré.
Et ça,
franchement, c'est...
Putain. Vous serez décédé.
Ouais, faut que...
vous ne survivrez pas à cette époque.
Sympa.
Alors, les insectes, c'est quand même intéressant. Vous ne semblez pas emballé par la chose, mais les insectes apportent plus de protéines que la viande de bœuf à portion équivalente. J'ai lu ça, ce que vous
tout
confirmez.
À fait.
Voilà,
tout
donc
à fait.
C'est quand même pas mal.
Après, sur les cheveux.
J'étais sûr que vous alliez
pas
là-dessus.
Trop faire le malin non plus.
Donc, un point en moins pour Quentin.
Génial.
Les noix de cajou se rapprochent. Une viande de bœuf qui ne sera d'ailleurs probablement qu'un lointain souvenir en 2100, à l'instar des célèbres dîner mensuel du Club du Gras organisé par Cyril Lacarrière.
Où sont les poulards?
Oui, non. Oui.
J'ai faim.
Oui.
Où sont les rôles, les rôtis,
oui.
Les saucisses?
Il n'y aura plus de saucisses.
Où sont les fèves?
Il n'y aura plus de fèves. Il n'y aura plus rien en 2100. Ces plaisirs viandards masculinistes seront relégués aux oubliettes de l'histoire, car en 2100, nous dégusterons toujours de la viande, mais in vitro. Cultiver des cellules de vache en labo pour créer de la viande de synthèse, ça existe depuis quelques années maintenant. La commercialisation à grande échelle devrait arriver d'ici peu, enfin on dit ça depuis 10 ans. Mais selon vous, quel était le prix du premier hamburger de viande in vitro présenté le 5 août 2013 à Londres par le chercheur néerlandais Mark Post? A, un tout petit peu moins cher que l'appartement sur lequel Quentin avait fait une offre à Montreuil, offre refusée hélas, pour rapport insuffisant.
Dites toute ma vie.
B, exactement le même prix, c'est fou, que cet appartement, ou c'est un peu plus cher encore que l'appartement de Quentin.
C'est...
Bah, vous savez le prix de mon appartement?
Oui.
Ah d'accord, on se connaît quand même très bien maintenant.
Vous nous l'avez dit.
D'accord. B.
Exactement le prix de cet appartement.
Allez.
Manon.
C'est un peu plus cher.
Un peu plus cher,
yes.
Manon Mariani, oui. Premier steak in vitro, 245 000 euros. Un process industriel qui pourrait faire tomber le prix à 65 euros le kilo. A noter qu'aux États-Unis, la FDA vient tout juste de dire oui à la viande de poulet cultivée in vitro. En France, la question n'est pas à l'ordre du jour, même si parfois, vu le goût du poulet à la cantine, je me demande si la loi n'est pas passée dans notre dos. Mais attention, le calvaire continue pour Cyril Lacarrière, car le 24 décembre, nous fêterons le réveillon de Noël ensemble. Camille. Ses yeux brilleront devant les plateaux de fruits de mer, les chapons farcis et le foie gras. Seulement voilà, un de ces produits ne sera pas tout à fait naturel, car cette année, pour mon réveillon, j'ai fait confiance à la société Gourmet, une start-up parisienne qui entend faire souffler un vent nouveau sur nos dîners de fête. Comment, d'après vous ? Avec du foie gras cellulaire à base d'œufs de canne fertilisés ? Avec du chapon in vitro fourré au marron de synthèse ? Ou avec les toutes premières huîtres d'algues au tofu ?
Ah, là c'est.
La réponse A pour Manon, oui, le foie gras cellulaire fini, le gavage sadique des oies et des canards. Cette start-up a mis au point un foie gras 100% respectueux donc des animaux. Alors Cyril, avoue que ça t'étonne.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Ça c'était Eddie Mitchell dans Le Bonheur et dans le Pré, mais sachant que le personnage d'Eddie Mitchell dans ce film se confond parfaitement avec celui de Cyril Lacarrière en vrai, peut-être pas que certains y ont vu un biopic, ça marche. Victoire donc, très là. Celle-là de Manon Marnier et donc
3 à moins
défaite de Quentin.
Allez,
chose promise, chose due. Ah si, ah si.
Ah bah là.
Voici les noix de cajou d'Antoine Decaune. Quentin, un mot peut-être pour vos proches.
Du vert, hein.
Si c'était la dernière fois que vous pouviez vous adresser à eux. Ah moi j'ai fait William Rovelli dans Fort Boyard. Allez-y.
Elles sont moisies.
Je veux vous entendre mâcher.
Ah elles sentent. Je ne sais pas ce qu'elles sentent.
Là si vous ne procédez pas, ça va être terrible.
Allez Quentin.
Allez, je vous entends mastiquer.
Bon courage.
Oh oui, il l'a fait.
Faut avaler, hein.
C'est magnifique, oh Quentin. Oh non, il a craché. Ne compte pas.
Ah oh, si, c'est délicieux.
Ah non, oui, c'est délicieux. Quel sera l'effet des noix de cajou périmées d'Antoine Decaune sur l'estomac de Quentin, lui ?
J'en avale un.
Nous le saurons probablement dans quelques minutes. En attendant, on continue de décrypter.
Ou dans quelques années.
Ou dans quelques années, peut-être ça aura des conséquences à long terme. C'est ça qui est terrible. On continue de décrypter ce secteur florissant qui est celui de la food tech avec notre invité et le biophysicien Christophe Lavelle. Un sujet nous intéresse particulièrement, vous l'avez compris, dans Zoom Zoom Zen, la viande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viande in vitro ? Est-ce qu'on est toujours dans l'optique d'une production de masse de cette fausse viande ou est-ce qu'on...
Non.
Non.
On est dans l'optique de niche. C'est-à-dire que même les producteurs ou les entreprises qui ont pignon sur rue à l'heure actuelle, qui sont les plus connues, n'ont pas de mal à avouer en tout cas en discussion privée, qu'ils visent au maximum 1% du marché.
Ah oui, donc.
Pour la bonne raison qu'on ne peut pas imaginer avoir des quantités de production que permettent à l'heure actuelle l'élevage, et encore moins un élevage qui serait encore plus intensif tel que ça se pratique de plus en plus.
Oui, ça qu'on voit.
Donc, on est sur un marché de niche qui a du sens, parce que ça permet effectivement d'avoir cette fameuse... C'est-à-dire de garder le goût, la texture, l'aspect de la viande tel qu'on souhaite la consommer quand on aime la viande, et en même temps nous donne cette opportunité de le faire sans effectivement tuer d'animaux, ce qui n'est pas une idée nouvelle du tout. Je voudrais juste avoir une très courte citation d'un personnage célèbre, enfin pas tellement célèbre, mais le discours est intéressant, où il nous dit en 1894, hein, donc c'était il y a 125 ans, un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, son petit flacon d'épices aromatiques accommodé à son goût personnel, tout cela fabriqué économiquement et en quantité inépuisable par nos usines, l'homme gagnera en douceur et en moralité parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. C'était en 1894, Marcelin Berthelot, lors d'un discours.
Incroyable, on dirait du Émeric Caron.
Exactement, on dirait du Émeric Caron, et c'était 1894. Donc l'idée n'est pas nouvelle, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on sait le faire.
Oui, c'était
qu'un
rêve.
C'est plus de la science-fiction. Ça peut être un cauchemar aussi, ça dépend comment on se positionne, mais en tout cas, techniquement, on sait le faire.
Et il y a un mot intéressant aussi dans cette citation, c'est personnaliser. Je crois que dans la food tech, il y a cette notion de personnaliser les plats en fonction peut-être des allergies des gens, qui est possible maintenant avec la technologie, et ça, c'est...
Et là, on touche le volet de la santé aussi, éventuellement, avec ce qu'on appelle aussi la nutrigénomique. Ouais. C'est-à-dire de se dire
En fonction de son génome.
En fonction de son génome, et surtout en fonction du génome des hôtes que nous hébergeons, qui sont tout le microbiote.
Ah oui.
Et à travers ces centaines d'espèces de bactéries qui nous colonisent, si on était capable d'en avoir une carte d'identité très précise, on aurait des clés extraordinaires pour justement avoir une alimentation qui nous convienne, et qui nous convienne au sens vivre-vieux en bonne santé.
C'est un repas ou un traitement ?
Alors justement, ça peut être vu comme un traitement, mais n'importe quel traitement peut se transformer en repas pour peu qu'on y mette du plaisir. Donc si au lieu de manger ma pilule qui me fait tel effet, on propose à la place une bavette frite et dans lesquelles la formulation fait que ça a le même effet que la pilule et que moi j'adore la bavette frite.
C'est parfait.
Et ben, dans ce cas-là, je suis content.
Okay.
Manon Mariani.
En 2021, la NASA avait lancé le Deep Space Food Challenge. En gros, c'est un concours culinaire pour innover la conception d'aliments dans l'espace. On a un peu l'impression d'être dans de la science-fiction. Vous l'aviez dit, c'est l'avenir, ça. Bientôt, on va pousser du maïs sur Mars.
Alors, pousser du maïs sur Mars, c'est possible. Il y a des expériences qui ont été faites.
Très bien.
Oui, tout à fait. Alors, le maïs, je ne sais pas, faire pousser des végétaux sur Mars, ça a été fait. Non pas directement sur Mars, ça coûterait un peu cher, mais en tout cas, la Terre de Mars, entre guillemets, a été reproduite. Elle contient de l'azote et du phosphore notamment, donc on sait qu'on serait capable de faire pousser des végétaux sur Mars, en condition d'apporter de l'eau, évidemment, ce qui est un problème, parce qu'on ne sait pas trop combien il y en a sur Mars. Non, quand on dit par rapport à ce futur, effectivement, on imagine 2001, l'Odyssée de l'espace et compagnie, et justement, quand on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, un des moments les plus frappants de ce film, c'est quand ils mangent leur sandwich, un vrai sandwich. Et c'est un moment de bonheur intense. Donc c'est pour ça que quand on parle, et là où Marcelin Berthelot s'était complètement planté, c'est qu'on sait que même si techniquement on a les moyens de se nourrir de gel et de pilules et de choses comme ça, on ne peut pas le faire. Parce que non seulement il n'y a pas de plaisir, mais d'un point de vue physiologique, ça pose beaucoup de problèmes. Donc on sait que c'est pas ça. On a la solution technologique pour faire ça, mais on sait qu'on ne le fera jamais. Et on sait que n'importe qui part traverser le pôle Nord pendant 2 mois ou faire le tour du monde à la voile, il emmène des aliments lyophilisés, des gels protéinés, etc. Mais il emmène aussi beaucoup d'aliments rassurants, des sortes de, qu'on appelle parfois doudou aliments. C'est-à-dire que une fois tous les 2 jours, il va s'ouvrir son morceau de foie gras avec un morceau de pain, parce que c'est ça qui va le sauver psychologiquement.
Quentin, lui.
Elon Musk a annoncé que son entreprise Tesla travaillait actuellement sur la création d'un robot humanoïde. Il a dit que c'était pour remplacer les humains dans les tâches répétitives, ennuyeuses et dangereuses, par exemple la cuisine, ce qui est un peu triste.
Super, Elon. Bravo, Elon.
Vous y croyez ou pas à ce robot de Musk? Est-ce que c'est ça aussi la food tech?
Alors, la food tech investit beaucoup dans tout ce qui est robotisation pour les tâches effectivement, que vous qualifiez d'ingrates. Après, ça reste subjectif.
C'est lui, hein, c'est pas moi.
Mais non, quand je dis vous qualifiez, c'est grandi. Elon qualifie d'ingrate, là, notre copain Elon. Oui, c'est sûr que pour désherber par exemple un champ, ça n'éclate personne. Je connais aucun paysan qui vous dit que c'est vraiment le kiff de désherber mon champ. Par contre, c'est vrai que là où je trouve que Léon déconne un peu, c'est que la cuisine, ça doit être une activité de plaisir.
Ça reste un plaisir.
Ça doit être un plaisir. Alors, c'est vrai qu'éplucher des patates, c'est pas forcément ce qui est le plus sympa, et que ça peut être pas mal d'avoir un robot épluchant des patates. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est quand même le plaisir de sentir, de touiller, de mélanger, d'assaisonner, d'interagir. Ça va rester. Et les robots qui font la cuisine, ils existent. Ils vont se perfectionner, ils vont devenir de plus en plus compétitifs.
On la fera avec eux.
Oui, alors après, en démonstration, c'est rigolo.
Oui.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Dans quelques instants, Marine Baousson viendra nous dire ce qu'elle a compris et retenu de la food tech. Mais avant ça, grâce à vous, Manon Mariani, on se penche sur ce qui fera l'actualité demain, grâce à votre veille sanitaire des réseaux sociaux. Alors Manon, aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle application qui pourrait remplacer Twitter.
En espérant que celle-ci soit la bonne, hein, Mathieu. On le sait, depuis l'arrivée du milliardaire Elon Musk, on en parlait à la tête de Twitter, beaucoup d'utilisateurs cherchent à fermer leur compte et à migrer vers d'autres cieux. Les appels au boycott se sont amplifiés cette semaine car Musk a eu la bonne idée de réactiver le compte de Donald Trump alors qu'il était banni à vie de Twitter. Mais avant de fermer leur compte, les utilisateurs de Twitter veulent surtout avoir une solution de repli et retrouver un réseau de microblogging digne de ce nom. Alors, je vous avais parlé de Mastodon il y a quelques semaines, qui a enregistré plus de 2 millions d'utilisateurs en plus depuis l'arrivée de Musk. Beaucoup de tweetos pensaient avoir enfin trouvé leur nouveau réseau fétiche, sauf que ça n'a pas vraiment été le cas. Non, Mastodon a vite été critiqué par pas mal d'utilisateurs qui ont eu du mal à comprendre le principe un peu plus compliqué que Twitter. Du coup, c'est reparti pour la chasse à l'alternative parfaite de Twitter, d'autant plus que les utilisateurs ont peur que la plateforme soit fermée définitivement. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment des crash tests pour savoir quelle est la meilleure solution ou se retrouver dans une ère post-Twitter. Et le nouveau nom qui ressort est celui de l'application Hive, qui vient de dépasser les 1 million d'utilisateurs. L'application a à peine 3 ans et se base vraiment sur le même modèle que Twitter, une page, un compte, possibilité de faire des tweets, etc. Et Hive propose même un onglet média où l'on peut rajouter des photos comme sur son compte Instagram et un onglet musique pour connecter nos playlists Spotify ou Apple Music. Alors le gros point fort de Hive, c'est son interface. Alors si celle de Mastodon était un peu froide, celle de Hive est au contraire très colorée, très pop, très actuelle en fait. De plus, le fonctionnement de l'appli est très simple et très intuitif. Elle surfe aussi sur les codes du moment en étant vendue comme une safe place où tout le monde est le bienvenu. On a peut-être trouvé le successeur de Twitter.
J'ai l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai, Manon.
Et c'est le cas, Mathieu. Car Hive est sujette à des polémiques hein, depuis quelques jours, au point de se retrouver en trending topic mondial sur Twitter, évidemment. Beaucoup de gens lui reprochent d'être en lien avec une personne que l'on connaît malheureusement trop bien.
Les créateurs de Hive sont des supporters de Donald Trump. Vous devriez tous supprimer vos comptes et cette application.
Sauf qu'on le sait, Mathieu, Twitter est quand même assez connu pour être le temple de la désinformation. Oui. Et clairement, celle-ci est une fake news en bonne et due forme. Mais elle ne vient pas non plus de nulle part. En fait, Donald Trump est associé avec une boîte qui s'appelle aussi Hive et qui est chargée de modérer les contenus de son application Truth Social. Les deux s'écrivent de la même façon, donc forcément, ça prête à confusion. Après, quand on regarde bien, elles n'ont pas le même logo et n'ont pas été fondées par les mêmes personnes. Hive Social, le nouveau Twitter, donc, a été fondé par une jeune étudiante américaine de 23 ans, Catherine Pop, alors que l'autre Hive a été fondé par deux hommes supporters de Donald Trump qui n'ont aucun rapport avec Catherine. Pour éviter du coup toute confusion, l'application Hive Social a tweeté hier afin de mettre les choses au clair.
C'est bien de faire attention aux nouvelles marques, il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Pour rappel, Donald Trump et Andrew Tate sont bannis de Hive. Les profils de suprémacistes blancs sont aussi supprimés, aucune tolérance pour la haine.
Bon, vous l'aurez compris, pour le moment, Hive se vend comme une application good vibe et bienveillante, histoire d'attirer du monde et surtout de bien contraster avec Twitter, hein, qui se transforme petit à petit en gros foutoir, faut le dire. Après, reste à voir si elle va pouvoir s'imposer dans la durée, avec des utilisateurs prêts à revenir à zéro en nombre de followers, et ça, rien n'est moins sûr.
Merci beaucoup Manon Mariani, des good vibes, je vous en propose d'autres. Car voyez-vous, j'adore Fatoumata Diawara et j'adore aussi Damon Albarn. Ont-ils voulu me faire plaisir? En tout cas, ils ont décidé de faire un duo. Voici Ensera sur Inter.
Sera, 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 sera
Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen arrive presque à son terme, mais si on veut vraiment être exhaustif sur le sujet de la food tech, impossible de ne pas sonder le cœur et l'âme de Marine Baousson qui vient de s'installer dans ce studio, celle qui voudrait être surnommée Tata Galette par ses neveux et nièces. Bonjour Marine.
Mais bonjour, et on m'appelle Tata Saucisse finalement, comme toi. c'est la vie. Aujourd'hui, on a parlé de la food tech, et la food tech, ils en parlent énormément dans le Salon International de l'Alimentation, le SIAL, qui a lieu tous les deux ans, et où moi je suis déjà allée, parce que quand il s'agit de nourriture, j'ai des connexions. Alors autant si vous cherchez 6 places VIP pour Mylène Farmer ou 6 grammes de coke, bon bah là je peux rien pour vous, désolé Mathieu. Autant si vous voulez vous enfiler gratos 6 kilos de carpaccio à la truffe, je suis en place. Tu cherches un plan cru dans ta région? Envoie Marine au 8-12-12. Marine au 8-12-12. Ça, c'est de la food tech, mon pote. Donc moi, je vous le disais, j'ai des connexions et j'ai pas envie de me la péter, mais moi, je suis amie avec la petite fille de l'inventeur de la pâte feuilletée congelée, Bérangère Krief. Ouais, c'est vrai. En gros, son papy, c'est le mec qui un jour a ouvert son frigo, il a vu qu'il y avait un fond de tarte qui allait périmer, il l'a foutu au congélateur en premier et il a monté une start-up dans les années 50. Maintenant, c'est une grosse boîte qui vend aussi des pizzas ou des flammes-cuches et c'est hyper pratique. Voilà, tu décongèles, tu mets au four, boum. Moi, j'en ai toujours chez moi, tu sais, des flammes prêtes à mettre au four. Tu cherches des flammes chaudes dans ta région? Envoie Marine au 8-12-12. Marine au 8-12-12. Bon, en vrai, j'adore ça, mais vous trouvez pas que les flammes cuches, en vrai, c'est juste des pizzas de radin?
C'est une arnaque.
C'est une grosse arnaque, on est d'accord.
C'est bon.
Bon, j'arrête la polémique, mais en fait, grâce à Papy Feuilleté, j'ai pu aller au SIAL gratoche, bouffer des crêpes vertes, du vinaigre balsamique alors et des boîtes remplies de champignons. Boîte de champignons étant aussi comme ça que j'appelle Morandini.
Oh,
vous êtes choqués, mais soyez pas choqués parce que. Comme dirait Jean-Marc, oh ça va, c'est de l'humour. Moi, je pensais qu'en allant au ciel, que les innovations alimentaires, eh ben, ça serait des gélules nourrissantes, vu que visiblement je vis dans les années 60. Mais en fait, non. En fait, le gros enjeu, c'est de faire en sorte que plus personne ne mange de viande. Alors moi, je vous le dis, je suis passée aux saucisses véganes. Je suis Tata saucisse végane. J'en ai préparé pour ma meuf qui est végé lors du barbecue de présentation à tous mes oncles et tantes, et elle est passée incognito. Franchement, c'était trop cool. Personne ne s'est rendu compte de rien. Oui, parce que ma famille, que je sois avec une femme, pas de souci, mais qu'elle ne mange pas de viande. Non, ils s'en seraient pas remis. Dans ma famille, ils sont pas woke, ils sont plutôt cassolettes. Bon, en tout cas, la grande question de la food tech, c'est comment nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Et c'est vrai que c'est une super question parce qu'il va en falloir quand même des saucisses véganes. Mais moi, je me disais, avant de nourrir les gens de 2050, ce serait bien de nourrir tous ceux de 2022, non? Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Maëlle, c'est une étudiante de Sciences Po qui a 100 euros par mois pour vivre. C'est horrible.
Attendez, Marine, vous allez quand même pas faire des vannes sur une étudiante qui galère.
Non, rassurez-vous, j'en ai pas trouvé. J'avais que, bah dis donc, elle a fait Sciences Po ou quoi? Mais bon, c'était pas. Non, mais je l'ai pas faite. Et heureusement, parce qu'il y a, en 2022, j'ai eu du mal à le dire, 56% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim. 2 étudiants sur 3 sont en situation d'extrême précarité. Car une fois toutes leurs factures payées, il leur reste moins de 50 euros pour subvenir à leurs besoins de base, c'est-à-dire se payer des places pour Mylène Farmer et acheter de la colle. Ah non, pardon, j'ai encore confondu avec Mathieu.
Ça suffit.
Bon, en tout cas, j'espère que la food tech réussira à trouver une solution pour nourrir tout le monde en 2050. Et si c'est pas le cas, je m'inquiète pas non plus. Je suis sûre que Bérangère pourra décongeler 2-3 pâtes feuilletées. Et sinon, il y a aussi les millefeuilles que tu peux décongeler. Moi, j'adore ça, les millefeuilles. Tu cherches des millefeuilles dans ta région? Envoie Marine au 8-12-12.
Merci Marine Baousson, on vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Merci Christophe Lavelle de nous avoir guidés dans la jungle de la food tech qui, on l'aura compris, est partout. Un dernier mot pour quelqu'un qui prendra l'émission en cours de route et qui va la réécouter en podcast évidemment. Il ne faut pas avoir peur de la food tech. Par exemple, la nourriture transformée, les arômes, ça fait des dizaines d'années qu'on a des arômes de bananes dans nos yaourts. Personne ne crie au scandale en fait, il faut s'adapter.
Le four à micro-ondes, quand il est apparu, il a fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'il est totalement inoffensif. En fait, la technologie en soi ne doit pas faire peur. C'est ce qu'on en fait qui peut poser problème. Et pour ça, il faut juste s'intéresser un peu au sujet et pas de souci.
Quelle est la prochaine révolution qui nous attend, que seuls les biophysiciens connaissent? C'est pas le grand public encore, ou alors peut-être dans des petites publications particulières, mais c'est quoi?
C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qui emballe les aliments. La question des emballages, ouais. C'est la question numéro un de la food tech, parce que l'alimentation est extrêmement polluantes, notamment à travers les plastiques. Et donc, trouver le plastique qui va permettre...
Ça restera du plastique ?
Ben non, justement.
Ah non.
Trouver le remplaçant du plastique, c'est la food tech qui va nous le trouver. Ça sera des polymères végétaux, extraits d'algues, extraits, on ne sait pas encore exactement quoi, mais il y a plein de pistes. Et c'est ça, sans doute, un des principaux enjeux de la food tech aujourd'hui, c'est l'emballage.
Polymères végétaux, à mon avis, ça nous fait une émission. C'est un bon nom. Merci beaucoup, Christophe Lavelle. Je rappelle votre livre « Molécules, la science dans l'assiette » chez Ergol. Merci à tous, Manon Mariani, Quentin Lui, l'aspirateur à foie gras Cyril Diacarrière, Ghislain Fontana était à la réalisation. Tu manges pas de foie gras ?
Non, c'est le seul truc que je mange pas.
Ça fait bizarre de t'entendre dire ça. Ghislain Fontana était à la réalisation, Élise Christophe à la technique. Zoom Zoom Zen revient demain pour zoomer sur un autre phénomène du moment, la démondialisation ou le grand retour des frontières et du protectionnisme. À demain, 16h. D'ici là, restez bien sur Inter. Quand c'est classe, la maîtresse ne tolère pas les retardataires. Bonjour Charline Van Necker.
Bonjour Mathieu Noël. Quand c'est classe, à la radio, on peut pas tolérer les retardataires.
Mais
ça, c'est
certainement
sûr.
Pas.
Terrible.
Ils seront foutus dehors.
C'est encore classe, en effet, avec notamment Émeric Lomprey, qui nous gratifiera d'un journal d'information. Donc ça, c'est toujours un très grand moment.
Grand moment en perspective.
Ouais, voilà. Il remplace Alex Vizorek aujourd'hui. Juliette Arnaud, qui entame une nouvelle lecture. Djoubaka, qui sera là aussi. Et puis Pauline Girardot, notamment. Voilà.
Très, très belle équipe. Très belle classe.
Oui, oui, oui.
À tout de suite, Charline.
Merci.